Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La Primavera, le Ronde ou encore l'Enfer du Nord, ces noms sonnent comme autant de belles promesses pour les amoureux du cyclisme. Chaque saison, les classiques rythment ainsi nos week-ends, de Milan-San Remo au Tour de Lombardie en passant par le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Liège. Mais quelle est la plus grande, celle qui vous a fait rêver, celle qui vous a procuré le plus d'émotion? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort, et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la classique des classiques. Pour m'accompagner, deux de nos consultants, Nicolas Fritsch et Steve Chenel, ainsi que les journalistes d'Eurosport Laurent Vergne et Christophe Godot. Salut à tous!
Bonjour. Salut tout le monde.
Salut Adrien.
Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, pour commencer, quelle course avez-vous choisi de défendre, Steve?
Bien évidemment, le Tour des Flandres.
Laurent?
Ouais, moi, je vais faire gagner une petite heure à tout le monde. Paris-Roubaix, ça s'appelle la reine des classiques. Donc, si c'est la reine des classiques, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Donc voilà, c'est Paris-Roubaix. Merci, bonsoir.
Salut, bon, on s'en va.
Allez, Christophe?
Le Tour des Flandres, évidemment.
Le Tour des Flandres également. Et toi, Nico?
Milan-San Remo.
Milan-San Remo. Eh bien, écoute, on va commencer dans l'ordre dans lequel ce cours est classique. Milan-San Remo, c'est la première, c'est la Primavera, la Classissima. Qu'est-ce que tu lui trouves? Pourquoi tu as choisi Milan-San Remo?
Bah, j'en avais déjà parlé dans une autre chronique. C'est ce côté, c'est vrai que d'ailleurs, chapeau à Steve et à Jackie qui l'ont commenté en intégralité. C'est vrai que ce n'est pas la classique à regarder en intégralité, ça c'est sûr et certain. Mais son final, et je trouve que c'est le plus beau des finales de l'année. On l'a souvent remis en cause, hein, Milan-San Remo, il faut que ce soit plus dur, les sprinters, etc. Et d'ailleurs, on voit que ça n'arrive pas forcément au sprint maintenant, malgré un parcours où il n'y a même plus le Turquino. Donc, c'est ce côté vraiment, je sais qu'il y a 270 km, il faut le dire, un peu chiant. Mais les 30 derniers, même les 50 derniers, quand on arrive sur les capis, moi, je trouve ça vraiment super excitant. Et c'est vraiment, ça monte progressivement jusqu'au Poggio, jusqu'à la Via Roma. C'est toujours hyper stressant. Et ce que j'aime bien dans Milan-San Remo, c'est qu'on ne sait vraiment pas qui va gagner pratiquement jusqu'à la ligne d'arrivée. Contrairement à d'autres classiques, on voit un peu venir le vainqueur. Là, sur Milan-San Remo, c'est vraiment hyper open jusqu'au bout.
Oui, on l'a vu encore récemment. C'est vrai que tu as les attaques souvent dans le Poggio, mais derrière, ça peut se regrouper dans la descente. Il y a, comme tu dis, la Via Roma. Cette incertitude, Steve, c'est quelque chose qui te plaît dans Milan-San Remo?
Pas du tout. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans Milan-San Remo, c'est justement... de me dire qu'il peut se passer quelque chose à part l'attaque, la fameuse attaque qu'on attend du meilleur puncher du monde dans le Poggio et la descente technique. Celui qui m'a peut-être fait rêver, et pour autant, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, c'était la victoire de Nibali il y a quelques saisons. Mais sinon, ça reste toujours le même type de course. Et d'ailleurs, même cette année, il y avait trois archi-favoris, avec Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe. Et finalement, personne n'a tenté dans la Cipressa, personne n'a tenté dans l'un des capis. Ça y est, t'as raison Nico, hein, sur le fait de dire que pendant 270 bornes, il ne se passe absolument rien, rien de chez rien, on le connaît, je ne sais pas si tu l'as fait, mais c'est vraiment une course à l'usure. Donc pour moi, honnêtement, Milan-San Remo, ce n'est pas forcément la classique qui donne envie, même si voilà, on peut appeler un chat un chat, on peut se comparer avec les vainqueurs des années 1920-1930, parce que c'est l'une des rares courses qui ne change pas son parcours.
Ouais, ça j'aime bien aussi.
Laurent?
Alors moi, j'aimais beaucoup Milan-San Remo quand j'étais gamin, dans les années 80, notamment quand Laurent Fignon gagnait, c'était mon idole. C'est vrai qu'après, j'ai eu un peu de mal quand même avec le fait que ce soit devenu vraiment une classique réservée aux sprinters. Hein. Pendant 20 ans, à part les victoires de Bettini, franchement, ça se terminait quasiment tout le temps au sprint, et ce n'était pas un sprint Aujourd'hui, on a encore des sprints parfois, mais ce n'est pas des sprints à 40, 50 comme on a connu. Moi, pour moi, c'était devenu une super étape du Giro, quoi. Pour un monument, moi, je me faisais quand même une autre idée de ce type de course. Après, depuis quelques années, j'ai un regain d'affection pour cette course parce qu'elle est devenue très ouverte. Et c'est vrai qu'on s'ennuie, pour ne pas dire autre chose, pendant 6 bonnes heures. Hein. Mais moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que vraiment, on est incapable de dire quel va être le scénario. Et je trouve que oui, c'est vrai que le Poggio, par exemple, est plus assez sélectif pour une immense majorité. On a vu Caleb Ewan cette année qui se promenait dans le Poggio. Moi, j'étais vraiment sidéré. Et les sprinteurs peuvent encore gagner aujourd'hui, mais les punchers aussi. Et d'ailleurs, depuis quelques années, depuis Nibali, on a vu Nibali, Alaphilippe, etc. Donc, c'est devenu à nouveau une classique qui est plus réservée à un type de coureur. Et je trouve que le fait que le parcours ne soit pas assez sélectif, peut-être, même si la fin est très animée, ça oblige chacun à être assez créatif. Et on voit des attaques dans des descentes, vraiment dans le final. Donc, c'est une course ultra tactique dans sa dernière ligne droite, de façon imagée. Et ça, j'aime bien. Donc, je trouve que c'est redevenu une classique plus intéressante aujourd'hui. Mais maintenant, moi, ce n'est pas celle qui me fait le plus rêver, clairement.
Je trouve dommage, Laurent, hein, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il y a la Cipressa qui est quand même située à quasiment 40 bornes de l'arrivée. Depuis quelques années, on sait très bien que la Cipressa, elle ne sert plus à rien.
Ouais, c'est uniquement le Poggio. Ils savent qu'attaquer là, ça sert quasiment à rien. Donc,
ça ne sert plus à rien, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi qu'il y a quand même peut-être 30 ans ou 40 ans, si on n'avait aucune chance de faire la malle et de battre les sprinteurs, on essayait de beaucoup plus loin. Et c'est clair que cette année, on attendait tous une attaque au moins d'un Philippe Gilbert, d'un Tish Benoît ou d'un autre aussi loin pour essayer de déstabiliser les trois grands favoris. Ça ne l'a pas fait. Donc moi, ça m'a remis un petit point négatif sur le Sanremo de cette année. Quand même.
Après, tu vois, pour…
Vas-y, Nico.
J'ai participé qu'une fois à Milan-Sanremo, tu vois. D'ailleurs, j'avais battu de 10 places Jackie Durand en 2004. On avait fini très, très loin parce que c'est une course, il faut le savoir. Si on descend mal, si on ne frotte pas, c'est impossible. Hein. Donc, j'avais abordé la Cipressa dernier. Autant dire que c'était foutu. Mais je le savais, j'étais là pour aider Philippe Gilbert, justement, déjà en 2004.
T'es la Française des Jeux.
Ouais, je crois qu'il fait un top 10. Ce n'était pas encore le grand Philippe Gilbert, mais c'était déjà pas mal. Donc, moi, c'était juste mon rôle. Mais ce que j'aimais avant de le faire, et encore plus après l'avoir fait, et même au moment de le faire, et même si j'étais nul pour frotter, c'est ce stress. En fait, c'est la course qui me fait le plus stresser, même devant ma télé. Et en course, toi, Steve, tu sais mieux que moi, tu as participé plus souvent, et tu étais meilleur que moi sur Milan-Sanremo. Mais c'est quand même hyper stressant déjà d'aller les capis avec les voitures mal garées, les poubelles qui dépassent, ça frotte à bloc, ça hurle. Enfin, et ça, je le ressentais avant de le faire. Quand je l'ai fait, et après, là, devant ma télé, je suis comme un dingue la dernière heure, et ça va crescendo jusqu'à la fin. Et c'est vrai, je reconnais qu'il y a plein de défauts à Milan-Sanremo, mais c'est ce côté stressant qui me plaît.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord. J'aime à dire que c'est le quart d'heure le plus tendu de la saison pour moi. Et c'est un peu ce qui me plaît dans cette course. Et j'ai même une théorie un peu arrêtée, un peu dictatoriale. Pour moi, regarder juste les 30 derniers kilomètres de Milan-Sanremo, c'est un peu triché, quoi. Pour moi, il faut se taper les 6 heures avant pour avoir le droit d'apprécier ce quart d'heure de folie. Et justement, en fait, contrairement au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix notamment, où ça peut attaquer à peu près n'importe où, pas n'importe où, mais un peu de partout, sur le Milan-Sanremo, on sait où ça va attaquer. Maintenant, on le sait, malheureusement. C'est sur le Poggio. Et pourtant, il y a quand même des coureurs ces dernières années qui arrivent à sortir, quoi. Alaphilippe souvent, ces 3 dernières années c'est lui, et voilà, donc c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît dans cette course, quoi.
Après, moi, j'aime bien faire des analogies avec le tennis. Ok, on peut regarder en intégralité pour savourer encore plus la fin, mais c'est un peu comme si tu avais le tie-break à 25 partout et que tu te tapais 50 jeux quand même entre John Isner et Kevin Anderson avant de quand même profiter du tie-break qui va durer 10 minutes. C'est un peu ça, vraiment.
Ouais, après, t'es
masochiste. Hein.
Mais c'est vrai que cette dernière ligne droite, comme tu disais, Laurent, de manière imagée, elle vaut le coup. Et rien que pour ça, comme tu dis, Christophe, ça vaut le coup de se taper peut-être les heures et les heures derrière son poste de télévision pour apprécier quoi.
Puis Milan-San Remo, c'est alors même si c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant on a une course comme les Strade Bianche qui marque peut-être le vrai début de la campagne de classique et on a quelques semi-classiques flamandes aussi, mais voilà, c'est le premier très très grand rendez-vous, c'est le premier monument de la saison. Et ouais, bah c'est la primavera, donc il y a quand même aussi ce parfum de se dire là on rentre dans une période qui va être géniale jusqu'à la fin des Ardennaises. Pendant 5-6 semaines on va manger de la classique, de la grande course, et ça c'est quand même un truc qui donne envie aussi d'être à Milan-San Remo. Et puis c'est aussi des superbes images, hein. Franchement, l'autre jour je regardais, il y avait encore des photos absolument dingues quand ils sont sur le front de mer. Moi, je me lasse jamais de ça, et tout ça fait partie aussi de la mythologie de cette course de par sa place dans le calendrier. C'est un peu comme Paris-Nice, même si encore une fois il y a des courses en janvier et février, mais tous ces rendez-vous-là, ça nous montre que le printemps revient et que le cyclisme, avec ses grandes courses, revient. Et c'est pour ça qu'on est quand même toujours content, à défaut de se taper 8 heures de Milan-San Remo, de la voir revenir cette classe.
Quand c'est Steve et Jackie, ça va, c'est en passe des bons moments. Mais il faut aussi avoir été en Italie. Bon, je suis à moitié italien, je ne suis peut-être pas objectif du coup avec mon choix de Milan-San Remo. Mais sentir la ferveur vraiment dans tout le pays. L'Italie est un pays plus sportif que la France. Et Milan-San Remo, c'est un truc de dingue, comme le Giro d'ailleurs dans la Gazzetta dello Sport. Alors, il y a moins d'équipes italiennes. À l'époque, il y avait quand même beaucoup d'équipes italiennes. Maintenant, il y a des champions italiens, déjà pas tant que ça finalement. Et surtout, il n'y a plus d'équipes italiennes. Il y a moins de cette polémique du coup. Mais c'est ça aussi qui faisait la magie de Milan-San Remo. En Italie, c'est un événement incroyable. Et un coureur, par exemple, comme Gabriele Colombo, qui l'a remporté une fois en 1996, jusqu'à sa mort, ce sera le vainqueur de Milan-San Remo. Il fait une carrière, une après-carrière, juste sur ça. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment extraordinaire pour un Italien de remporter Milan-San Remo.
Je suis d'accord avec toi, Nico. C'est clair que l'Italie, là-dessus, on a vraiment envie, et on sent vraiment, lorsqu'on est en centre-ville de Milan, que c'est une ambiance particulière, mais c'est encore différent. On parlera après de ma course, du Tour des Flandres, mais oui, on sent qu'il y a un vrai chauvinisme chez les Italiens. On sent que les Italiens, ils sont chez eux, c'est leur course. J'ai fait une seule fois le Giro, et effectivement, le Giro, c'est exactement la même. On sent qu'ils sont chez eux, le public est tout acquis à la cause des Italiens. Et ça, finalement, quand on est étranger à ça, soit on le prend de manière positive, à dire « waouh, c'est quand même excellent ce qu'on est en train de vivre ». Et c'est vrai que c'est l'un des gros atouts de Milan-San Remo, c'est que lorsqu'on arrive justement dans la Cipressa ou dans le Poggio, ou même entre les deux bosses, on sent qu'il y a ces Italiens qui parlent fort, qui font des grands gestes, et forcément ça met un petit frisson supplémentaire. Un petit peu moins quand même que le Tour des Flandres.
Ouais, j'allais dire qu'en termes de ferveur au départ notamment… Je pense que le Tour des Flandres, c'est un truc de fou. Et c'était encore plus le cas quand ça partait de Bruges. D'ailleurs, j'ai cru voir aujourd'hui qu'on parlait de refaire le départ de Bruges l'année prochaine, je crois. Il me semble avoir vu ça.
Au son du gong, ce serait bien.
La Grand Place, là, cette image de la Grand Place, moi, à chaque fois, c'est vraiment un truc incroyable. Je pense qu'il n'y a qu'en Belgique qu'on peut voir ça pour du vélo quand même.
En Flandre.
Qu'en Flandre, peut-être, encore plus.
Justement, une course comme Liège-Bastogne-Liège, pour l'avoir faite aussi.
Ouais, il n'y a personne.
Ah ouais, j'ai l'impression de faire une course normale, alors que c'est quand même Liège-Bastogne-Liège.
Parlons des Flandriennes. Laurent, tu évoquais les Ardennaises, on y viendra. Les Flandriennes qui suivent du coup la Primavera, le Milan-San Remo, avec le point d'orgue, un des points d'orgue, entre guillemets, le Tour des Flandres, la course que tu as choisi, Steve, et également toi, tu as choisi, Christophe. Ouais. Le Tour des Flandres, c'est... On en parlait, on commençait à l'évoquer, la ferveur, c'est un monument fantastique. Parle-nous-en un peu, Steve.
Non, moi, la première fois que j'ai eu limite les larmes aux yeux, parce que je suis quelqu'un de très émotif, effectivement, c'est mon premier Tour des Flandres, il n'y a pas photo. Lorsqu'on est au départ de Bruges sur la Grand Place, déjà rien que le fait d'aller signer, il faut savoir que les bus sont garés environ à 500 mètres et on passe dans Bruges pour aller signer. Et c'est vraiment, moi qui suis un dingue de foot, et de sport américain, on a l'impression d'être dans une arène de foot où un joueur de NBA qui rentre. Il y a vraiment une ferveur populaire énorme, mais contrairement à l'Italie où on sent que c'est très chauvin, là c'est vraiment tous les coureurs, ce sont tous des héros. Ils vont faire le Tour des Flandres. Et effectivement, moi, j'ai choisi le Tour des Flandres parce que, bon, déjà, d'une part, c'était là-dessus que je m'exprimais le mieux. Et en plus, je jouais devant, même si voilà, j'ai une malheureuse 16e place. Mais bon, ce n'est pas un truc de fou. Mais moi, voilà, 16e du Tour des Flandres, pour moi, c'était déjà énorme. Et voilà, je crois que c'est plus d'un million de personnes sur le bord des routes. Donc, il faut s'imaginer que chaque traversée de village, il y a des drapeaux partout, le Lion des Flandres, il y a la bière qui coule à flot. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et encore aujourd'hui, si je devrais choisir pour moi vraiment la course qui m'a le plus marqué, ce n'est pas mes victoires à la Panne ou à un titre de champion de France cyclo-cross, c'est vraiment le fait d'avoir fait les Flandres et d'avoir pu jouer devant avec, à l'époque en plus, avec Bonen, qui était avec son maillot de champion de Belgique sur le dos. Fallait voir le truc de fou, rien que d'être dans sa roue, c'était jouissif. Hein.
Dans le peloton, ça fait partie des grandes courses, le Tour des Flandres. Alors, il y en a qui la détestent hein, par la difficulté, mais il y en a beaucoup qui l'adorent. On est obligé de citer Jackie Durand, hein, dernier vainqueur français en 1992. Jackie, notre consultant. Steve, tu as dû, j'imagine, en parler souvent avec lui.
Oui, après, bah, surtout que Jackie, il faut quand même savoir que quand il a fêté les 30 ans de sa victoire, j'étais à la FDJ et il nous avait invités à boire un pot justement à Audenarde.
Les 20 ans.
Ouais, parce qu'il va faire la gueule si je le vieillis encore. Mais pour les 20 ans de sa victoire. Et du coup, il attendait la relève française et on était tous là, admiratifs. Quand même, le Jackie, il a fait un sacré numéro. Mais non, évidemment que ça parle. Après, j'ai pas eu la chance. J'aurais vraiment un jour voulu être intégré dans une équipe belge, une Lotto, une De Koninck, pour voir le briefing. J'ai eu la chance, Nico peut en parler aussi, de faire un briefing de Championnat de France avec Marc Madiot. C'est déjà un truc de foot, t'as le poil qui s'hérisse, mais je pense que dans une équipe belge, ça doit être encore autre chose. Puis je pense que si Christophe, il est de mon avis pour dire que les Flandres, c'est la plus belle course, voilà, j'ai même pas besoin de sortir tous les atouts, hein, parce que même
vous
les
avez été payé,
c'est la course préférée.
Vas-y Christophe, non, mais, c'est ton tour. Non,
mais on est deux, ils sont tout seuls, on va s'allier pour la gloire du Tour des Flandres. Bah, moi, c'est marrant parce que mes souvenirs les plus lointains, évidemment, c'est Paris-Roubaix, mais j'ai vraiment appris à aimer le Tour des Flandres dans les années 2000, bah, avec Tom Boonen qui était mon idole. D'ailleurs, l'édition 2010 avec l'attaque de Cancellara dans le mur de Gramont m'avait fait très mal, mais c'était beau à voir. Et non, mais c'est pas Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est des courses uniques. On roule sur des routes de Milan-San Remo toute l'année. Liège-Bastogne-Liège, voilà, c'est des routes classiques. Sur les pavés, on roule 5 semaines dans l'année et sur une dizaine de courses à tout casser. Pour moi, c'est ça qui est exceptionnel. En fait, je pense que le vainqueur du Tour des Flandres, pour moi, c'est le dernier homme debout. C'est une course de gladiateur et le dernier homme debout, c'est lui qui gagne la course. Et d'ailleurs, je préfère que le vainqueur du Tour des Flandres arrive tout seul dans la dernière ligne droite pour vraiment avoir cette sensation de il a battu tous les autres, il a fait tomber tous les autres et c'est le plus fort. Alors qu'au vélo, sur Paris-Roubaix, j'ai plutôt envie qu'ils arrivent à deux pour un duel sur le vélodrome.
Laurent ?
Bah, là où je suis d'accord, c'est que moi, l'année dernière, Christophe s'en souvient, il y avait participé avec notre camarade Benoît Vitek, on avait fait un long format sur le Tour des Flandres. Donc, on avait évoqué cette course en long, en large et en travers, ses moments, ses pages d'histoire, son ADN, son identité, sa ferveur, tout ça, on l'a évoqué. Donc, j'avais fait une longue interview de Jackie Durand. Et Jackie, à chaque fois, me rappelle bien que le Tour des Flandres, c'est la course la plus dure. Et je pense qu'il a raison. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion possible parce que la combinaison des pavés et des monts, dont certains sont vraiment monstrueux, font que pour moi, physiquement, j'ai fait aucune de ces courses-là. Donc, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais je pense que c'est physiquement le plus grand défi dans les classiques, en tout cas. C'est vraiment un truc vraiment dingue. Et après, ouais, cette ferveur, moi, c'est vraiment le truc qui marque. Je pense que la Belgique, ça reste vraiment le pays du vélo. Et Nico a raison, la Flandre, la partie flamande, encore plus. On sent vraiment que c'est tellement important pour eux. Et Jackie en parle très bien de ça aussi, en tant qu'ancien vainqueur. Ils ont énormément de respect pour tous ceux qui font le Tour des Flandres. Je pense, Steve, tu as dû ressentir ça. Mais quand on l'a gagné, on a la double nationalité, quoi. d'où qu'on vienne, on a la nationalité flandrienne. Ça n'existe pas, mais ouais, je me souviens d'une anecdote de Jackie qui disait qu'il s'était fait, en allant sur je ne sais plus quelle course, où il roulait un peu trop vite, arrêté par la police en Flandre. Et bon, bah, il aurait pu mettre les lunettes de soleil, laisser la vitre. Et allez-y, circulez, Monsieur Durand. Donc voilà, ça fait partie. Je pense que ça, ce rapport-là, vis-à-vis des coureurs, des anciens vainqueurs, entre eux et la population locale, c'est quelque chose qu'à mon avis, on ne peut retrouver que sur le Tour des Flandres.
Nico, tu veux en dire un mot ?
Ouais, bah après, moi, j'ai mis Milan San Remo en premier, mais j'adore aussi le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.
Non,
Nico.
Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas avoir des arguments contre le Tour des Flandres. C'est une course que j'adore aussi. Et alors, je n'ai pas eu la chance d'y participer chez les pros, chez les Espoirs, oui. Donc, j'ai ressenti quand même toutes ces… Puis, j'ai fait d'autres courses, hein, les Grand Level Games, les machins. Donc, cette ferveur, je la ressens. Et c'est vrai que ce sont les courses globalement, les Flandriennes, les plus excitantes de l'année. Toute cette période-là, c'est génial. Et pourtant, l'antithèse de ce genre de coureur. Mais c'est ça que j'aime regarder à la télé ou même, pourquoi pas, sur le bord de la route un jour. Dans le futur, j'espère. Mais c'est vrai que ces courses-là sont vraiment… il se passe toujours des trucs, quoi. Après, je suis moins d'accord sur le côté dernier gladiateur ou la course. J'ai plutôt la sensation, et d'après ce que m'ont raconté des copains, notamment un Florent Brard qui a terminé 7e de Paris-Roubaix, que Paris-Roubaix, c'est la seule course où vraiment il est complètement défoncé dans les jours qui suivent, contrairement aux autres classiques. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas comparer moi à titre perso. Hein. Mais pour ce côté, le dernier gladiateur ou la course la plus dure, je ne suis pas sûr du Tour des Flandres, mais je laisse les spécialistes qui ont fait les deux donner leur avis. Mais oui, le Tour des Flandres, c'est magique. Alors, le seul truc que j'ai craint, c'est quand ils ont changé ce parcours.
Ah ouais, parce
que
pour moi,
le Tour des Flandres, c'était quand même Gravelberg.
Exactement.
Et dans ma jeunesse, les Bartoli, les Kateke là-dedans ou d'autres coureurs. Et puis finalement, on s'y est fait, quoi. Et c'est là, d'ailleurs, c'est vrai que… la région, ça s'appelle le Tour des Flandres. D'ailleurs, ce n'est pas Milan-San Remo où ça part de Milan, ça arrive à San Remo. Là, c'est le Tour des Flandres. Donc, ça pourrait être fait dans n'importe quel sens, finalement. Et on s'est adapté en tant que téléspectateur à ça. Et je la trouve, cette version, finalement aussi belle, quoi, en mettant de côté l'aspect un peu vieux con qu'on peut avoir. On aime quand c'est comme ça, quoi. Et finalement, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi bien. Donc, cet enchaînement avec le vieux Coirmont plusieurs fois. Alors, on sait que c'est pour des raisons… financière, les espaces VIP, et voilà. Mais ça reste le Tour des Flandres et c'est toujours une super belle course.
Mais il y a même des coureurs qui disent que le parcours tel qu'il a été redessiné il y a quelques années est peut-être encore plus dur aujourd'hui qu'à l'époque où il y avait Gramont et Bosberg dans le final. Mais c'est vrai que les organisateurs à l'époque avaient dit mais Gramont, ça n'a pas toujours été le juge de paix dans les 20 derniers kilomètres. Hein. C'était finalement relativement récent à l'échelle de l'histoire de la course. Mais c'est vrai que pour les gens de notre génération, on avait toujours connu le mur de Gramont à 20 bornes de l'arrivée, comme ça. Et
exactement.
Voilà, j'ai eu un peu de mal quand même, mais je reconnais que Gramont, si loin de l'arrivée, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que le parcours reste incroyablement sélectif. En termes de difficulté, ça n'a rien changé. Après, c'est un côté plus sentimental par rapport à nos souvenirs.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, et c'est vrai que Nico, je voulais en parler justement de ce fameux changement de parcours, et effectivement, j'ai eu la chance de faire les deux, de par le passé, et tu as raison, Laurent, le nouveau parcours est bien trop dur, il y a beaucoup moins de mouvements de course, justement, cette triple ascension du mur du vieux Coirmont avec ce triple passage au Bosberg également, le Koppenberg, avant, était situé à 50 bornes de l'arrivée. C'était, certains anticipaient le Koppenberg avant d'aller chercher justement la Kapellmuur, mais là, c'est trop dur, donc il y a moins de mouvement. Et je préférais également l'ancien parcours, et pourtant, je ne suis pas un vieux con, mais effectivement, la ferveur autour… un jeune con, alors. Mais effectivement, la ferveur autour, tout simplement, du mur était énorme. Elle était énorme. C'était bien plus impressionnant que cette montée du vieux Coirmont ou du Paterberg où effectivement seuls les VIP sont là et la plupart sont là pour boire une bière et voir passer les coureurs à 50 mètres de eux. Le mur de Gramont, on était aux côtés des spectateurs, c'était plutôt énorme et ce final, tout le monde le connaissait. Tout le monde était unanime pour dire que c'était le dernier moment. Et je rejoins Christophe, j'ai fait en 2010 le Tour des Flandres avec Bonen qui fait péter Cancellara qui fait péter Bonen à la roue. J'étais juste derrière, on était un groupe de 8. D'ailleurs, il y avait une Capi, Armstrong était encore là et j'étais dans ce petit groupe là. Et à l'arrivée, on avait imaginé, on avait vu la scène, c'était assez incroyable. Et je m'étais dit, je ferai partie de cette histoire là parce que on se doutait très bien que le soir de ces Flandres là, la presse belge allait s'enflammer et aller
D'ailleurs, parlons de ce pour un cadet. Tour des Flandres. Non, je rigole. Avait-il un moteur ou pas?
vous parlez du mur de Grammont. Moi, ça me fait penser. C'est un truc qui m'a toujours plu sur le Tour des Flandres, c'est les images. Sur le mur de Grammont, cette caméra fixe là, qui est sur le côté, juste avant le virage, où justement, quand Cancellara avait lâché Bonen, on a l'impression d'être avec eux, en fait. Vraiment, on a l'impression d'être dans la roue, enfin, pas dans la roue, juste devant Cancellara, et de le voir accélérer. Et on voit la souffrance de Bonen derrière. Et après, sur le haut, il y a la caméra de face. Juste avant qu'ils prennent à gauche, juste à côté de la chapelle. Et je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Dans le Paterberg, je crois qu'on a pareil, une caméra de face. Vraiment, on les voit monter. Là, ça écrase un peu les écarts. On ne sait pas trop ce qui se passe. Dans le Vieux-Poiremont, sur ce faux plat en haut, là, où ça semble interminable. C'est pareil, c'est magnifique. Copenberg, évidemment, avec les coureurs. Bon, ça arrive plus trop, mais les coureurs qui sont à pied, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est aussi ça le Tour des Flandres, c'est ces images un peu mythiques.
Ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que ce qui fait aussi la grandeur d'une classique, c'est aussi ces moments incroyables. Là, tu parlais de Bonen Cancellara, c'est des images marquantes. Vous en avez d'autres sur cette course-là? Je pense à Philippe Gilbert, son numéro, quand il est parti à 50 bornes de l'arrivée. Ça, c'est aussi des moments qui font la légende d'une classique.
Bah, moi, c'était plutôt dans ma jeunesse, hein, forcément. C'est ces souvenirs-là qu'on garde. C'était Michele Bartoli qui attaque dans le mur de Grammont, dans son style caractéristique. C'était plutôt un coureur des Ardennaises, hein, Bartoli. Et là, il les avait plantés dans Grammont. Et c'est vrai que c'était ça m'est resté avec son style en plus, magnifique. Voilà, c'était l'image du. C'est ça, c'est ce que j'aime bien en te parlant pas de Julien Alaphilippe dans le Poggio. C'est quand le champion attaque. Là où les champions attaquent. Quoi. C'était dans le mur de Grammont, bim, on le sait, et ils s'en vont quand même et ils gagnent. Ça, je trouve ça magnifique.
Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur une image ou vous voulez qu'on passe au choix de Laurent?
On est tellement abasourdi et tellement plein d'étoiles.
Ouais, là, c'est vrai que
on va passer au digestif.
Ils ont tué le game. Comme
pour dire quand même, j'adore les Flandres. Hein, pour quand même aller dans le sens.
J'ai l'impression que tu as plus d'arguments pour les Flandres que pour Milan San Remo, Nico.
Ouais, mais quand même. Non, mais moi, j'avais été monté le Copenberg tout seul la veille de je ne sais plus quelle course, Flèche Brabanson peut-être, ou je ne sais plus. Je faisais pas la course de la veille qui était vraiment peut-être le Grand Prix E3 à l'époque. Et j'avais été tout seul, j'avais regardé la carte et j'avais été chercher le Copenberg pour aller le monter quand même une fois dans ma vie. Voilà. Quand même, la passion de la lutte.
C'est beau. Bon, passons à Paris-Roubaix, qui se court dans la foulée hein, du Tour des Flandres. Laurent a préparé ses arguments, il les a aiguisés, il les a affûtés. On va voir ce qu'on va voir.
J'ai tout donné tout à l'heure. La reine des classiques, c'est tout, c'est mon seul argument.
Il va tout répéter ce qu'on a dit sur les Flandres, mais un cran en dessous parce que c'est français. Voilà.
Non, mais... Christophe disait que c'était des courses uniques et je pense que Paris-Roubaix, c'est vraiment la course unique pour moi. C'est-à-dire que c'est un défi qui ressemble à rien d'autre. Et déjà, ce que j'aime, c'est l'idée qu'une course qui doit avoir 30 cm de dénivelé puisse être aussi dure. Rien que ce concept-là m'a toujours fasciné. Et je me souviens que les premières années où je regardais Paris-Roubaix, quand j'avais, je sais pas, 10 ans à peu près, et j'avais quand même une certaine conscience de la topographie de la France. Et je me souviens avoir dit à mon père, mais Paris, Roubaix, mais c'est tout plat, quoi. Enfin, pourquoi c'est si difficile, quoi. Et puis bon, après, tu regardes et tu comprends. Et moi, je suis de la génération qui, à mon avis, a vraiment bénéficié de l'impact visuel. Parce que la trouée d'Arenberg, qui, je pense, a vraiment sauvé Paris-Roubaix. Si on avait fait ce débat au milieu des années 60, par exemple, je pense que personne n'aurait choisi Paris-Roubaix. Pour une raison simple, c'est que la course était vraiment en train presque de mourir parce qu'il y avait de moins en moins de secteurs pavés. Il y avait du macadam partout. Et je crois qu'en 66 ou 67, il n'y a plus que 20 km de secteurs pavés. Et Jacques Godet a vraiment pété les plombs, il n'y a pas d'autre mot, parce que je crois que c'est l'édition 66 ou 67 qui arrive avec un groupe, alors certes royal, mais au sprint, ils sont 15 ou 20 à jouer la victoire. Et Godet disait, ça ne peut pas être ça, Paris-Roubaix. Et la trouée d'Arambert arrive à la fin des années 60. Elle a vraiment sauvé Paris-Roubaix. Et la première fois que la trouée, qui est quand même située loin de l'arrivée, on parlait du mur de Gramont qui a été reculé dans le parcours. Ce qui est génial avec la trouée d'Arambert, c'est que c'est quand même très, très loin de l'arrivée. Ce n'est pas un moment décisif parce que personne ne gagne Paris-Roubaix dans la trouée d'Arambert. Mais en revanche, il y en a beaucoup qui peuvent perdre la course à cet endroit-là. Et cette espèce de cathédrale-là, quand ça a été diffusé en direct, je crois que donc, la première fois, je crois que c'était en 84, et ça doit être la première année où j'ai regardé. Et là, ça a vraiment redonné une dimension. Donc, la version moderne de Paris-Roubaix doit beaucoup, je pense, au côté spectacle télévisuel et à la trouée d'Arambert. Et pour moi, si je devais garder, évidemment, il y a le carrefour de l'Arbre, il y a plein de passages, mais les deux trucs qui font que j'aime autant Paris-Roubaix et qu'il ne faut surtout pas toucher, c'est la trouée d'Arambert et l'arrivée sur le vélodrome. Qu'une grande classique comme ça se joue sur un vélodrome, je trouve ça, ça a un charme fou. Et je trouve que c'est un lien avec la légende d'il y a un siècle. Et voilà, ça, il ne faut surtout pas y toucher. Et ça contribue pour moi au côté vraiment unique de cette course. Et puis après, voilà, je pense que c'est la course... Il y a un petit côté aléatoire parce qu'on peut avoir telle poisse. Voilà, il faut une part de réussite. Personne ne gagne Paris-Roubaix par hasard, mais on peut le perdre même en étant le plus fort. Et donc, c'est tout ça que j'aime dans Paris-Roubaix. Et alors, il y a une phrase que j'ai envie de citer, qui est une phrase de Théo de Roy, que j'avais mis il y a quelques années dans le long format que j'avais fait sur Arambert. Et il avait été, c'était l'édition 85, il arrive, il est couvert de boue, il n'en peut plus, quoi. Et il est interrogé à la télé américaine sur CBS et il dit « C'est de la connerie cette course, vous travaillez comme un animal, vous n'avez même pas le temps de pisser, vous vous pissez dessus, vous vous retrouvez dans la boue, c'est de la merde. » Et le journaliste lui dit « Est-ce que vous reviendrez quand même ?» Et Théo de Roy a cette réponse géniale, il dit « Évidemment, c'est la plus belle course du monde. » Voilà. Donc pour moi, il avait tout résumé là, à la fois dans le côté extrême et je pense que ce qui fait qu'on aime le vélo en tant que passionné, en tant que spectateur, que téléspectateur, c'est à la fois le risque que prennent les coureurs. On aime ça, on peut trouver ça bizarre, mais je pense que ça fait partie du truc, et la souffrance. Et je trouve que Paris-Roubaix catalyse vraiment tout ça, peut-être plus que n'importe quelle autre course au monde. On sent cette souffrance, c'est palpable, quoi. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'éditions pluvieuses ces dernières années, mais ces images des coureurs couverts de boue pendant la course à l'arrivée, il n'y a que sur Paris-Roubaix qu'on voit un truc comme ça. Et voilà, donc pour moi, c'est une course unique avec des émotions uniques de spectateurs et je pense, même si je ne l'ai jamais fait, des sensations assez uniques de coureurs.
Messieurs les coureurs, justement, votre point de vue sur cette course.
Nico, tu as déjà fait Roubaix, toi?
Non, je n'ai pas fait Paris-Roubaix, t'imagines bien. J'ai fait les reconnaissances avec la Française des Jeux, où il y avait quand même des guédons mangeants et compagnie qui étaient pas mal hein, sur les pavés. Alors, quand j'étais tout seul en ligne droite, ça allait. Hein. Il fallait pas qu'il y ait tout, il fallait pas qu'il y ait 150 mecs autour de moi. Donc, du coup, non, évidemment, je n'ai jamais fait. En revanche, j'ai pris énormément de plaisir il y a 2-3 ans à aller faire des secteurs pavés, Carrefour de l'Arbre et compagnie. Comme tu dis, Laurent, les pavés, c'est extraordinaire, quoi. Je pense que même si on fait juste un secteur pavé, on a l'impression d'avoir fait un truc de dingue. Mmh. Et ce qu'on ne peut probablement pas retrouver même dans les difficultés, dans les côtes ou dans des cols, quoi, ou peut-être un col mythique, un Ventoux, un truc comme ça, mais... sur juste 2-3 km de pavé, on a l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire. Et tu as bien fait de préciser que ça n'a pas été comme ça toujours. Paris-Roubaix, les éditions des années, comme tu dis, 50, 60, etc. En fait, ça n'a jamais été aussi dur, Paris-Roubaix, pratiquement qu'aujourd'hui ou que depuis ces 10, 15 dernières années. Et le côté anachronique, ça, comme tu le disais, je suis vraiment d'accord avec toi, du vélo en lui-même. Faire du vélo aujourd'hui, faut avoir un petit pet au casque, quoi, parce que c'est vraiment se mettre dans la difficulté, alors que dans la vie, rien ne nous y pousse. Et en plus, Paris-Roubaix, pour moi, c'est le paroxysme de l'anachronisme, quoi. Tu te dis, mais on va se mettre dans cet état-là, on va chercher des pavés exprès, alors qu'on essaye d'avoir les plus beaux bitumes, le meilleur rendement, des roulements céramiques, des machins, et on va aller se fracasser dans des pavés, dans des conditions pas possibles. Et c'est vrai que c'est unique au monde, quoi. Paris-Roubaix, elle est vraiment unique au monde. Donc, je suis évidemment que, encore une fois, même si j'ai mis Milan en premier.
Je ne sais plus quel coureur m'avait dit, je ne sais pas si ce n'était pas Duclos, Gilbert Duclos Lassalle, qui m'avait dit, si on réfléchit deux secondes, rouler sur des pavés, c'est complètement con. Une route, ça peut être plat, ça peut monter, ça peut descendre. Rouler sur des pavés, il faut vraiment le vouloir, quoi. Donc, c'est ce que tu disais, Nico. Et c'est ça aussi qui est absolument génial.
Ouais, mais je vois, rien qu'aujourd'hui, là, je suis l'exemple typique du cycliste lambda. Je me suis acheté un vélo gravel et là encore, je vais aujourd'hui me faire une séance. Ça pourrait presque être des secteurs pavés. Il y a des pavés qui dépassent un peu, c'est des vieilles routes pavées, de l'herbe, de la caillasse et tout. Et sur 1 ou 2 kilomètres, me dépouiller la tête là-dessus. Et je pense qu'aussi les gens ou les cyclistes, on a envie de se lancer dans ce genre de truc parce que c'est pas commun, quoi. Et donc, les coureurs pros font pas à Roubaix et puis des personnes cyclistes plus lambda vont faire ce qu'ils peuvent autour de chez eux. Et d'ailleurs, il y a le Paris-Roubaix pour les cyclos qui a beaucoup de succès. Et j'aimerais bien le faire un jour, d'ailleurs. C'est complètement unique.
Voilà, Steve.
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec Nico. Moi, pourquoi j'ai choisi les Flandres par rapport à Roubaix pour une chose très simple, c'est que j'ai pas eu l'alarme quand j'ai fini mon premier Roubaix. Moi, au départ de Bruges, comme je disais sur la Grande Plage, j'ai eu l'alarme par rapport à la ferveur, par rapport à l'engouement qui n'est pas sur Paris-Roubaix. C'est vraiment dommage parce qu'effectivement, je pense que s'il y avait cette même ferveur populaire en France qu'il y a là sur la ferveur populaire, si Paris-Roubaix est en Bretagne, je pense qu'effectivement, j'aurais pu choisir Paris-Roubaix. On sait que le peuple breton est un peuple de cyclistes et effectivement, les gens se déplaceraient. Après, là où je rejoins Nico et Laurent, tous les deux, je vous rejoins sur le fait que c'est une course unique, déjà rien que pour la préparation matérielle. Il faut savoir que c'est la seule course où on utilise des vélos spéciaux, des boyaux spéciaux, des sections et des pressions ultra basses pour pouvoir être justement bon sur uniquement cette course. Et c'est vrai que pour avoir été dans certaines équipes, Roubaix, c'était surtout… c'est surtout pénible, quoi, parce qu'il fallait préparer des vélos, il fallait commander des boyaux chez le Hollandais ou chez le Breton pour justement avoir des grosses sections. Et ça, c'était très particulier, c'était particulièrement chiant quand on avait envie d'avoir le matériel tip-top. Imaginez bien faire une course de Formule 1 avec une Dodge, c'est compliqué. Mais du coup, c'est vrai que ça la rend unique. Il y a une chose qui est énorme, et c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, j'adorais le vieux parcours du Tour des Flandres, la Via Roma sur San Remo. Ce fameux vélodrome, effectivement, fait partie de l'histoire. C'est l'une des rares choses… encore une fois, où on peut se comparer aux années 50, aux années 60 avec cette entrée sur le vélodrome. Mais je vais même aller plus loin et ça va au-delà du vélo. C'est carrément la douche. Alors, il paraît que ça se perd, mais j'ai fait 6 Paris-Roubaix. J'en ai terminé 5. J'ai été me doucher à chaque fois aux douches. C'était obligatoire. On a des bus qui sont flambant neufs, qui sont 12 mètres avec du gel douche, du palmolive. Bref, tout ce qui va bien pour sentir bon et avec la serviette qui va. Mais on prend quand même notre sac à dos pour aller au vestiaire et pour aller se doucher dans cette espèce de petit carré en granit qui ressemble à rien, qui est pourri. Tu mets n'importe quel footballeur là-dedans, il te dit « t'es fou, je ne me douche pas là-dedans, je vais choper la peste ». Mais pour le coup, je trouve que c'est énorme de pouvoir effectivement aller encore une fois sur le vélodrome, se doucher là-bas. Et c'est ce qui la rend unique. Moi, voilà. La seule chose qui la différencie, encore une fois, je l'ai dit, c'est cette ferveur populaire. Je suis français, mais pour autant, je préfère le Tour des Flandres. Et je suis persuadé que tous les Flamands préfèrent le Tour des Flandres par rapport au Roubaix. Pourtant, c'est des qualités qui se rapprochent. Cet état d'esprit de dire, avant chaque secteur, c'est à la vie, à la mort. Si je ne suis pas dans les 15, ma course, elle est foutue. Et effectivement, c'est de trouver d'Arambert qui fait peur. Soit on débranche le cerveau et on sait qu'on peut y laisser notre saison, voire notre carrière, soit on y va. C'est des choses qu'on a envie de revivre. J'ai le frisson d'en reparler. Mais effectivement, quand on est à 1 km, qu'on voit le trou au loin, on sait que… Notre course peut soit se terminer là, soit on a la chance de pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, je n'ai jamais laissé de saison ni de carrière à Arambert, et tant mieux. Mais j'ai des garçons comme Tristan Valentin qui ont laissé un coude, des garçons comme Philippe Gaumont qui ont laissé un fémur. Mais je peux vous garantir, et si on leur pose la question aujourd'hui, ils ne regrettent rien, il fallait y aller tout simplement.
Mousseou, hein, Johan Mousseou qui est tombé.
Mousseou également aussi, ouais, le genou. Ouais.
Mais c'est vrai que on a ces images tous, hein, des coureurs à l'arrivée dans les douches, là, tous les plus grands champions dépités souvent parce qu'il n'y a qu'un vainqueur, quoi. Donc les autres, ils sont tous défoncés comme ça dans les douches. C'est vrai. Et quand on parlait d'anachronisme, c'est ça, quoi. Ça,
Et elles sont vraiment pourries, les douches, Nico, je te jure. C'est vraiment une chaînette.
J'étais au vélo club de Roubaix. Hein. J'étais une année au club de Roubaix. Donc, le vélodrome, ouais. Je l'ai vu.
Là, vous parlez des douches, là. Et, bah, moi, j'ai eu la chance de couvrir deux fois Paris-Roubaix dans mon métier. Donc, c'était 2014 et 2015. Et la première chose que j'ai eu envie de faire en arrivant à Roubaix, c'est aller voir les douches. Quoi. Et effectivement, comme dit Steve, c'est bien pourri. Mais à la fois, il y a cette classe avec les plaques des vainqueurs. Je pense que n'importe quel coureur rêve d'avoir sa plaque à cet endroit-là. Et on lit ces images, les images des douches, en fait, on les lit aux images des coureurs avec la boue partout, quoi. En fait, pour moi, ces deux choses sont liées. Et mon premier souvenir de Paris-Roubaix, bah, c'est Guédon. Mais Guédon, j'ai l'impression que c'est un souvenir que je me suis fait après. Et c'est Knaven en 2001. Et Knaven, il arrive et c'est impossible de le reconnaître. C'est ouais, impossible. Aujourd'hui, on ne le reconnaît vraiment pas, quoi. Donc la boue de Paris-Roubaix, on espère la retrouver. D'ici quelques années.
Christophe, tu vois, c'est ce que je disais quand je parlais du rapport du passionné, du spectateur à une course comme ça, et qu'on aime aussi le vélo pour voir souffrir les coureurs. Ça peut paraître dégueulasse de dire ça, je suis désolé, Nico.
Non, mais c'est normal.
C'est terrible ce que tu dis.
Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Je pense que le col de la Lauze, par exemple, l'année dernière, a marqué les esprits sur le tour parce qu'on. C'était palpable que les mecs arrivaient à peine à avancer par moment. Et ces images-là, et voir un coureur couvert de boue comme ça, moi, à la fin de Paris-Roubaix, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux jambes, alors que je n'ai pas donné un coup de pédale, mais parce qu'on ressent presque physiquement ce qu'on voit. Et il n'y a quand même pas beaucoup de courses qui donnent autant cette sensation que Paris-Roubaix. Et puis, juste un truc sur le vélodrome. Je ne sais pas s'il y a un truc plus excitant, et tu as raison, Christophe, c'est vrai qu'un mec qui arrive tout seul, c'est très bien pour lui, mais pour nous, ça perd vachement du charme du truc. En revanche, quand il y a un sprint à 2, à 3, à 4 ou 5, waouh, cette excitation là, du dernier tour, la cloche et tout, enfin voilà, il y a un côté. C'est génial à vivre, quoi. On se souvient des images de Hino qui règle le sprint, Duclos évidemment, avec Ballerini. Je ne sais pas où on en sera dans 20, 30, 40, 50 ans, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le parcours, j'espère que jamais on touchera au final sur le vélodrome à Roubaix.
C'est un sprint unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres cours dans l'année qui arrivent sur un vélodrome. Donc, c'est pas un sprint classique. Les repères sont chamboulés entre les coureurs. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Celui qui a de l'expérience de la piste et qui sait manœuvrer. Ouais.
Et ça crée une tension. Je sais pas que tu n'as pas dans une ligne droite classique, sur une route classique. C'est vraiment quand même très, très particulier à voir.
Quand Sagan arrive avec Didier en 2018, on se demande s'il va être battu. Pareil pour Gilbert l'année d'après avec Polite, quoi. Alors que sur une arrivée normale, on ne se poserait pas la question.
Ouais, c'est vrai.
Pour conclure sur ce thème, j'ai l'impression que vous avez été quand même assez bon sur vos arguments. Nico vous a bien abreuvé un argument aussi pour le Tour des Flandres et puis pour Paris-Roubaix. Merci Nico.
Nico, t'as été super sur le Tour des Flandres.
on peut pas ne pas citer les deux autres monuments que sont Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Pardon, la classique des feuilles mortes. Selon vous, elles ont un poil moins d'intérêt que ces deux-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont quand même particulière, Liège-Bastogne-Liège, c'est la doyenne, hein. Ça existe depuis 1892. C'est des courses qui sont plus que centenaires. Il y a une histoire aussi là. Laurent,
ouais, pour moi, je crois que c'est Nico tout à l'heure qui parlait de le manque de ferveur qu'on peut retrouver au départ de Liège. C'est incroyable de se dire que c'est la Belgique est le seul pays. Il y a deux monuments, c'est pas le seul, mais il y a deux monuments. Et en termes d'engouement populaire, c'est le jour et la nuit. C'est quand même assez incroyable. Mmh. Et pour moi, c'est ça qui manque un petit peu à Liège-Bastogne-Liège. Après, moi, j'aimais beaucoup ce parcours. C'est une course en elle-même que j'aime beaucoup. J'aime bien les Ardennaises. Et il y a souvent eu des courses dans les années 80-90 qui étaient vraiment géniales. Il y a eu quelques bastons. On parlait de
Bartoli
et à l'époque avec Jalabert et compagnie. Enfin, il y a eu quelques courses fantastiques. Mais c'est vrai que si je pense à une course mythique en Belgique, spontanément, je vais penser plus au Tour des Flandres qu'à Liège-Bastogne-Liège. Après, je trouve que chacune a son charme. Je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais toutes ces courses-là sont belles. Et moi, un de mes plus grands souvenirs de spectateur, c'est, pour parler du Tour de Lombardie, c'est la victoire de Charlie Mottet en 88 sur le Tour de Lombardie. Il avait fait une démonstration. C'est là que j'ai vraiment découvert cette course. Et c'est quand même aussi un parcours qui est assez sympa. Et puis, ce qui est génial avec le Tour de Lombardie, alors ce n'était pas le cas l'année dernière avec les modifications du calendrier, mais c'est que c'est le monument qui est isolé dans la saison, alors que les quatre autres se tiennent en quatre semaines, en gros, entre cinq semaines peut-être, entre Milan-San Remo et Liège. Le Tour de Lombardie, il est tout seul dans son coin. On y voit parfois des coureurs sauver une saison. Donc, ça a son charme aussi. Mais pour moi, ça reste quand même un petit peu en dessous. Ouais.
Enfin, moi, c'est un peu.
Un petit peu, il est gentil, Laurent.
Ouais, le problème du Tour de Lombardie, c'est que c'est justement, c'est loin de tout. Et souvent, déjà, on a quand même une participation parfois un peu faiblarde, sans faire un jour à tous les coureurs qui partent, et puis à tous les vainqueurs, notamment à Thibaut Pinot récemment. Mais j'ai participé une fois au Tour de Lombardie, et c'est aussi un parcours qui change un peu trop souvent, un peu moins ces dernières années, il est assez proche. Mais ça a quand même souvent changé de parcours dans un sens, dans l'autre. Il n'y avait pas de difficulté, à part Madonna del Gisalo, qui reste la côte emblématique du Tour de Lombardie, mais il n'y a pas cette ferveur de Milan-San Remo. Peut-être que c'est l'usure de l'année aussi, hein, là, au mois d'octobre. Après, les paysages sont beaux, la région est belle, on a des belles couleurs, mais la course en elle-même, je ne l'avais pas trouvée extraordinaire. Et alors, c'est encore pire pour Liège-Bastogne-Liège, que j'ai fait deux fois. C'est une super belle course, j'aurais bien aimé la gagner. Évidemment, n'importe lequel des cinq monuments, je l'aurais pris. Hein. Mais c'était une course lambda, pratiquement, quoi. Et pourtant, c'est Liège-Bastogne-Liège. Et c'est vrai que par rapport aux autres courses, c'est un ton en dessous. Voilà. Et pourtant, il y a des grands champions qui ont gagné. C'est l'une des courses les plus dures, hein, physiquement, quand même. C'est très, très, très dur.
Ouais, quand tu regardes le palmarès, ouais.
Ouais, il faut être un champion pour gagner là-haut. Hein. Mais il n'y a pas ce petit truc, quoi. Voilà.
Steve, tu voulais évoquer.
Les mecs. Non, moi je trouve qu'ils sont gentils. Non, mais honnêtement, le Lombardie, moi je préfère regarder le biathlon limite au mois d'octobre. Et puis bon, Liège-Bastogne-Liège, on vient de se faire l'Amstel, la Flèche, où on a eu des courses de côte. Et là, on attend Saint-Nicolas à 5 bornes de l'arrivée pour que ça pète un peu. Non, il faut être honnête,
mais ça
n'a
pas toujours été comme ça. Hein. Ça n'a pas toujours été.
Non, mais même sans ça, c'est vrai que c'est désolant de sortir en fait d'une course comme Roubaix. Et on a l'impression qu'on passe de tout au tout. On vient de faire un Milan-San Remo jusque Roubaix où il y a eu de l'adrénaline, de la peur. Voilà des images assez folles et on passe à l'Amstel où c'est que bon bah voilà, faut faire très attention au changement de direction et d'ailleurs le nouveau parcours pour moi est décevant. La Flèche, bon, on sait très bien que la Flèche wallonne, bon bah c'est une course de côte, hein, il y a que 200 pitons, bon elle est très dure, hein. Je l'ai fait une fois, je l'ai pas fini, mais bon voilà, il faut être surtout un très bon grimpeur. Et les Bastogne-Liège, c'est la doadienne, on en fait tout un pataquès et puis en fait bon bah et finalement il se passe pas grand chose. Effectivement, tu l'as dit Nico au départ. Il n'y a pas foule. Et puis, j'ai envie de dire, et vous vous rappelez qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, ne serait-ce il y a deux ans? Alors que quand on demande il y a deux ans le vainqueur de San Remo ou les Flandres Roubaix, on est un petit peu plus facile à trouver. Et alors, Lombardie, tu m'as parlé de la bosse, la Madonna de.
Et
de
quoi, Nico?
Ah, mais je ne connaissais même pas. Pour te dire, à tel point.
Tu regardes trop le biathlon.
Est très bonne.
Tu as raison. Donc, parce que, tu vois, c'est le seul monument. Alors, le terme monument, je pense qu'il est assez récent. Moi, à mon époque, on n'en parlait pas de terme monument. Mais c'est le seul monument, du coup. Ça ne viendrait pas de ne pas le voir à la télé, quoi. Je me dis, ah mince, bon, j'ai un truc à faire, je vais regarder le résultat le soir. Alors que rater Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, là, en général, j'organise quand même ma journée.
Là, c'est non, là.
Autour de la course, quoi.
Steve, tu voulais quand même.
C'est une très belle course, hein, Lombardie, malgré tout. Voilà.
Steve, tu voulais évoquer une dernière course qui te plaît depuis quelques temps?
Oui, alors bah, c'est rigolo parce qu'on a parlé justement de tous ces changements de parcours, l'ancien Flandre, le nouveau Flandre. On a parlé, comme l'a Nico, du fameux changement de parcours également du Tour de Lombardie. Moi, il y avait une course qui ne me plaisait absolument pas, que je n'ai jamais fait, que je détestais regarder, c'était Paris-Tours. Alors, les coureurs français aimaient se projeter sur Paris-Tours. C'était un petit peu voilà, la classique des feuilles mortes, etc. etc. Et puis, ASO a voulu dynamiser, a voulu peut-être un petit peu copier le Trobriand et surtout, je pense, a voulu contrecarrer un petit peu les Strade Bianche, qui va devenir certainement dans les prochaines années l'une des plus belles classiques également à égal du Tour des Flandres. Je pense que Christophe sera complètement d'accord avec moi. Mais effectivement, je trouve que Paris-Tours, avec ses chemins, vient rendre la course un petit peu héroïque Beaucoup de coureurs qui justement sont frustrés à la sortie de Roubaix parce qu'ils n'ont pas forcément fait un bon résultat, et puis on passe sur des parcours qui sont plus ou moins semblables avec des cols, ok, voilà, etc. Là, on revient sur un parcours différent à l'image des Strade Bianche, des chemins, des choses un petit peu qui sont à l'opposé de ce qu'on peut faire en fin de saison où on veut des beaux terrains plats avec du beau bitume, etc. On ressort un petit peu les vélos de classique et j'ai trouvé que le Paris-Tour de ces dernières années était très, très, très intéressant à regarder avec des coureurs qui se lançaient dans la bagarre assez tôt et puis une course comme on aime, animée avec, au contraire des années précédentes d'il y a 10 ans, voilà, un sprint massif ou un petit groupe qui vient se battre sur l'avenue de Grammont. Donc, j'ai trouvé que c'était une classique qui méritait… Un petit 15 sur 20 en progression, tu vois.
C'est pareil, bien. Ça a quand même très longtemps été une très très grande classique, hein. C'est vrai qu'après plus récemment elle a perdu, la seule non remportée par Eddy Merckx quand même, il faut le dire. Il en a rapporté beaucoup mais pas celle-là.
Il a gagné partout.
Et ouais, mais même pas celle-là. Non, il n'a pas gagné le Tour du Finistère. Non, mais moi, à l'inverse de toi, justement, Steve, et je comprends, en plus, c'est ta fibre cyclo-crossman, c'est normal. Et j'ai l'impression que ces chemins provoquent trop de crevaisons et perturbent trop, finalement, le déroulé de la course et viennent vraiment trop chambouler le rapport de force. Il faut vraiment avoir de la chance, quoi. Et ce qui n'est pas le cas sur les Strade Bianche ou un peu quand même sur Paris-Roubaix, mais pas autant, finalement. Et moi, j'aimais bien cette course, par tout remportée par Jackie Durand, il faut le dire aussi, une fois. Et il avait une fois bien aidé Richard Virenque. Et justement, ce match à l'époque, Virenque et tout, où ce duel, comme sur Milan-San Remo, c'est pour ça que j'aimais aussi Paris-Tours. On ne sait pas si c'est un sprinter ou un puncher qui va l'emporter. C'est vrai que c'était un peu… J'ai fait Paris-Tours, je m'étais même fait larguer dès le départ, mais bon, après, j'étais rentré dans les bordures et tout. Mais après, en fait, non, je m'étais arrêté pour satisfaire un besoin personnel dans le départ fictif et une heure à rentrer. Je m'étais fait pourrir par Marc Madiot après 40 bandes de poursuite. Et bon, voilà. Mais après, il y a ce rapport de force entre puncher et sprinter qui est hyper intéressant. Et du coup, j'aime moins ce nouveau parcours. Mais je comprends que Steve a une vision différente des choses.
Tu peux rester dans le classicisme, Nico. En tout cas, vous avez le choix chez vous entre le Milan-San Remo en début de saison, le Tour de Lombardie, Paris-Tours en fin de saison, pour vous faire vous aussi votre opinion sur la classique des classiques. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast qui est à retrouver, je le rappelle, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs de votre participation et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!
Salut.
Salut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.